Chapitre 18e. En 9 nuits, nous parcourûmes 200 kilomètres. Un des grands dangers que nous courions résidait dans le choix de la cachette où nous passions le jour. Comme nous ne connaissions pas les lieux, il arrivait qu'en croyant être à l'écart, nous nous installions à proximité d'un endroit habité, d'un chantier de bûcherons, d'une carrière en exploitation. J'avais obtenu en conséquence que, pendant que nous dormions, l'un de nous montât la garde. Je l'avais obtenu non sans difficulté. L'étrange fut que cette mesure de sécurité que j'avais tant désirée m'empêchait de fermer l'œil. Chaque fois que j'étais sur le point de m'endormir ainsi protégé, je ressentais un malaise qui dissipait mon engourdissement. J'avais confusément le sentiment que si je m'abandonnais au sommeil, je me réveillerais prisonnier. J'ouvrais les yeux. J'apercevais alors le factionnaire. Je lui disais que je n'avais pas sommeil, qu'il pouvait aller se reposer, que je le remplacerais. Et dès ce moment, je m'endormais, mon sommeil était paisible, car ma sécurité ne dépendait plus de personne. Les privations et la fatigue commençaient à faire leur effet. Nous étions de plus en plus divisés. Les uns regrettaient de s'être évadés. Certains parlaient d'entrer dans la première ferme sans se préoccuper de ce qui se passerait. D'autres voulaient tenter leur chance isolément. D'autres ne le voulaient pas pour que nous ne nous quittions pas et que nous subissions le même sort. Durut et Momo voulaient faire un grand coup, arrêter une auto, en expulser le chauffeur et foncer droit devant eux. Robert Jacques nous suppliait de patienter. « Bientôt nous serons à Grigaud, bientôt nous serons à Grigaud » répétait-il sans arrêt. Ce qui m'inquiétait, c'était le silence de trois d'entre nous. Ils me regardaient de temps en temps avec une expression sournoise. Moi, je m'efforçais de remonter le moral de tous. Je disais que nous n'avions qu'à continuer comme nous l'avions fait jusqu'à présent, qu'en réalité il ne s'était rien passé que nous n'ayons prévu, que nous pouvions considérer que jusqu'à présent les choses avaient plutôt bien marché. Le manque de nourriture, surtout, nous abattait. Certains de mes camarades envisagèrent de déterrer les légumes. Malgré la faim, je ne parvenais pas à me faire à cette idée. J'étais frappé par la rapidité avec laquelle on se résignait aux solutions extrêmes. Je le dis à Roger. Il fut de mon avis. Nous trouvions l'un et l'autre que, quelque difficile que fût notre situation, elle n'appelait pas encore de pareils expédients. Nous pouvions tout de même attendre. Cette façon de dramatiser ne laissait rien augurer de bon. Elle trahissait de la nervosité. L'hostilité que j'avais déjà remarquée à mon égard ne faisait que croître. Je ne savais que faire pourtant pour aider mes camarades. Peut-être les ennuierais-je avec ma prudence, mais en toute sincérité, je ne pensais qu'à eux. Je me considérais peut-être à tort comme responsable de la réussite de notre évasion. Et leur hostilité grandissait quand même, à tel point qu'instinctivement, je ne les quittais plus des yeux, comptant sans cesse si nous étions bien tous là, tellement je craignais que l'un d'eux n'allât me dénoncer comme l'organisateur de cette évasion et l'assassin des deux boches. Certains ne me parlaient plus. Je me gardais bien de changer quoi que ce fût à ma conduite. Il m'a paru que mon dévouement lui-même les agaçait. Que faire dans une situation pareille? Que faire quand la gentillesse et la bonté ne nous attirent pas la sympathie de notre entourage? Par moments, je sentais que mon regard avait quelque chose de désemparé. En constatant que j'inspirais une telle hostilité, ils se rembrunissaient malgré moi, se couvraient d'une expression mauvaise, si bien que je semblais donner raison à mes ennemis. « Vous voyez bien, avait-il l'air de dire, qu'il n'est pas franc ?» Je le compris à temps. On cherchait à m'empêcher d'être moi-même. Je ne tombais pas dans le piège. Je résolus de ne rien changer à mon attitude, de paraître ne m'apercevoir de rien. Mais quand les marques d'antipathie se firent plus nombreuses et plus affirmées, il me devint difficile de conserver cette attitude. Cela devenait de la bassesse. À force de répondre par de la bonté à la méchanceté, j'avais l'air d'avoir peur. Je sentais que d'un moment à l'autre, il allait me falloir demander une explication. Ce fut ce que je fis le lendemain. Nous nous étions réfugiés dans une cabane abandonnée au centre de laquelle était fichée une sorte d'établi. Comme tout le monde se plaignait de la faim, je me levai brusquement et je dis « Attendez-moi, je vais tâcher de rapporter quelque chose ». Mais avant de partir, je demandais si quelqu'un pouvait me prêter du fil et une aiguille. Je voulais transformer mon pantalon de façon qu'il eût moins l'air d'un pantalon de soldat. Je coupai également le col de ma vareuse, échancrant le devant afin de lui donner une apparence de veston civil. Tout le monde me regarda faire sans rien dire. Enfin, je sortis avec toutes les musettes disponibles. Je parcourus une dizaine de kilomètres en plein jour, à travers la campagne, m'approchant des petites fermes isolées, mais partout j'aperçus des hommes. Lorsque je revins, 2 heures plus tard, je ne doutais pas qu'on parlait de moi. Roger s'était mis à tousser. Bailliencourt, au moment où j'avais passé la porte, avait feint de scander de la main ses paroles. D'autres respiraient bruyamment. Je posai mes musettes vides et criai avec bonne humeur, comme on fait pour éviter de donner une déception. « Rien, rien, rien !» Je regardai Roger. Il me désigna des yeux à la porte. Je le suivis, un peu gêné de ce que cette invitation discrète se fit devant tout le monde, et en essayant par contre-coup de paraître la trouver toute naturelle. Le bras tendu, comme s'il me montrait l'horizon, il me dit « J'ai à te parler, méfie-toi. » Puis à haute voix « Tu vois, tu aurais dû plutôt aller dans cette direction. » Je n'entendais plus Roger tant le choc que j'avais ressenti avait été fort. J'entrai dans la cabane, décidé à savoir ce qu'on me reprochait exactement. Avant que j'eusse prononcé un mot, comme si on avait deviné mon intention, on m'accueillit avec des ricanements. J'avais trompé mes camarades. J'étais la cause de tout. Je les avais entraînés dans une aventure sans issue. Mais cela ne se passerait pas comme cela. On ne voulait pas payer pour moi, etc. J'allais répondre lorsque Roger me prit par le bras et m'entraîna dehors. « Ne commence pas à discuter avec eux, me dit-il. Attends qu'ils se calment. Ils t'en veulent en ce moment. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux. Vous vous expliquerez plus tard. » Je répondis que si vraiment je les gênais, j'étais prêt à m'en aller seul de mon côté. « Tu es fou !» s'écria Roger. « Je t'assure que dans le fond, ils t'aiment bien, ils sont nerveux, qu'est-ce que tu veux ? C'est un mauvais moment à passer. Dans quelques jours, ils seront les premiers à regretter leur méchanceté. » Je répétais que je ne voulais pas m'imposer. J'avais fait tout ce que j'avais pu pour eux. S'ils ne s'en rendaient pas compte, eh bien tant pis. Moi, j'avais la conscience tranquille. D'ailleurs, il y avait longtemps que j'avais songé à continuer seul ma route. Je n'étais resté que parce que j'avais cru que je pouvais être utile. J'avais conscience de ma responsabilité dans cette évasion. Les choses s'étant passées d'une façon beaucoup plus grave que nous ne l'avions prévu, et cela à cause de moi, je m'étais cru tenu de rester avec mes camarades, mais puisqu'ils ne le désiraient pas, j'aimais autant m'en aller. Pendant que je parlais, j'avais une préoccupation secrète. Je tremblais de découvrir, car quand nous avons été frappés à un endroit, c'est toujours pour ce même endroit que nous avons peur, que cette dernière solution ne fût pas du goût de mes camarades. Je craignais, par exemple, entendre Roger me dire « Eh, mais c'est qu'ils ne te laisseront pas partir comme cela !» et que l'histoire de Pelé ne se répétât en plus grand. Ce jour-là, il ne se passa rien. Le soir, nous partîmes avant la tombée de la nuit. Nous marchions depuis un quart d'heure, lorsque nous passâmes sur un viaduc. Au milieu, je fus pris soudain d'une grande frayeur. Nous apercevions un torrent, et nous étions si haut qu'on eût dit un minuscule ruisseau d'argent. Je ne sais pourquoi, mais j'avais eu tout à coup le pressentiment que mes camarades allaient me jeter par-dessus le parapet, Baumé et Roger comme les autres. Je les regardais. Personne ne faisait attention à moi. Ils me semblaient d'accord. Je ralentis le pas pour rester en arrière. Mais le viaduc, une fois franchi, je m'aperçus que je m'étais trompé comme il n'est pas permis de se tromper. Personne ne s'était même retourné une fois. Un peu plus loin, un nouvel incident se produisit. Nous traversions un champ lorsque nous aperçûmes, pas très loin, une femme. La bussière, qui se croyait très beau garçon avec ses petites moustaches et ses yeux légèrement bridés, dit qu'il allait lui demander quelque chose à manger. Je lui fis observer que c'était imprudent. Il me répondit « Laissez-moi faire ». À ce moment, 3 ou 4 d'entre nous voulurent se joindre à lui. Je compris que dans leur naïveté, ils étaient persuadés qu'une femme, parce qu'ils étaient des hommes, ne pourrait rien leur refuser. Je les vis s'éloigner puis parlementer. Peu après, ils revinrent et nous prièrent d'attendre. Cette femme leur avait promis de leur apporter du pain. Je leur dis qu'en fait de pain, elle allait revenir avec son mari, ses frères, des voisins, et qu'il était plus prudent de filer immédiatement. La bussière me répondit que je ne connaissais pas la femme, que la femme avait plus de cœur que l'homme, etc. En fin de compte, nous constatâmes que nous nous étions tous trompés, car la femme en question ne revint pas. Le lendemain, mes camarades furent pris d'un tel découragement que j'eus l'impression que notre équipée était terminée, qu'ils ne feraient pas un pas de plus, qu'ils allaient se constituer prisonniers et m'obliger à les imiter. Ils prétendaient que nous n'arriverions jamais, que nous avions entrepris une tâche au-dessus des forces humaines. Certains avaient les pieds abîmés, d'autres qui n'avaient rien, ni blessure, ni excoriation, ni ampoule, affirmaient qu'ils ne pouvaient plus marcher. D'autres encore se plaignaient de leurs jambes, de leurs reins, de leur estomac. Le plus curieux était que moi, je ne pouvais plus avancer à cause de mes bras. Ils étaient paralysés. Toutes les heures, nous faisions une pause. Nous ne prenions plus aucune précaution. Quand nous rencontrions des gens sur une route, nous allions nous asseoir dans un champ sans nous cacher, et nous les regardions passer. Dès que nous apercevions une maison ou une ferme, nous y allions mendier un peu de nourriture, et comme jusqu'à présent nous n'étions pas mal tombés, mes camarades s'enhardissaient dangereusement. Baumé était de plus en plus ridicule. Il transportait une caisse à moitié vide dont il ne voulait pas se séparer. Pour la centième fois peut-être, je lui avais dit de faire un paquet de ce qu'elle contenait et de l'abandonner. Robert Jacques nous disait « Courage, nous sommes arrivés. Ma belle-sœur nous attend. Grigao est tout prêt. » Quant à Bayancourt, lui, il avait les mains libres. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il s'adressait à l'un de nous. Il avait beaucoup d'argent sur lui. Il avait la nonchalance et la légèreté de ceux qui se disent qu'ils s'arrangeront toujours, qu'ils n'auront qu'à payer. En effet, tout le monde lui rendait des services. Certains pourtant, quoique dépourvus d'argent, lui battaient froid, goûtant sans doute le plaisir de montrer que dans certaines circonstances, l'argent n'est pas grand-chose. Ces derniers étaient d'ailleurs assez antipathiques. Ils avaient toujours l'air de nous dire que rien ne nous avait empêchés de faire comme eux.